France Culture.
Il est 18h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction présenté par Camille Marigaud. Bonsoir Camille.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Une première étape franchie ce soir à l'Assemblée. Avant les sénateurs, les députés viennent d'adopter à l'unanimité la loi de finances qui doit permettre à l'État d'assurer un service minimum en attendant l'adoption d'un véritable budget. Nous serons en direct de l'Assemblée en début de journal. À 24 heures de Noël, la distribution des colis encore perturbée à la poste après la cyberattaque d'hier. Reportage à suivre à Lyon. À l'étranger, les liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein évoqués dans une nouvelle salve de documents sur l'affaire qui met en cause le criminel sexuel décédé en prison. Des documents publiés à contre-cœur par le gouvernement américain. En Ukraine, le dôme de protection de la centrale nucléaire de Tchernobyl pourrait-il s'effondrer après la frappe d'un drone russe en février dernier? Le directeur du site alerte. Il redoute un nouveau bombardement aux conséquences qualifiées de catastrophiques. En Israël, enfin, le contrôle des médias étrangers par le gouvernement se confirme, une stratégie au long cours en pleine guerre contre le Hamas, nous le verrons. Et sans surprise, les députés ont donc adopté cet après-midi la loi spéciale qui, faute de budget, assure la continuité de l'État jusqu'à l'adoption d'une loi de finances pour 2026, présentée comme une roue de secours par le ministre de l'Économie, comme une rustine par celui du logement. Le texte doit pallier l'absence d'accord entre les parlementaires des deux chambres sur un texte budgétaire avant le 31 décembre. Nous retrouvons tout de suite Jeanne Serrin, vous êtes en direct de l'Assemblée, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc une première étape de franchie, même si ce vote n'était qu'une formalité. La question qui se pose, Jeanne, c'est surtout combien de temps cette loi spéciale va remplacer un budget en bonne et due forme?
Oui, c'est ce que redoute l'exécutif, que cette loi spéciale se transforme en une banalité. Mais pas question de se reposer éternellement sur elle, prévient le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure.
Attention, je vois poindre ici ou là une certaine accoutumance à la loi spéciale. Dire que le monde va s'écrouler avec la loi spéciale serait évidemment mentir, mais dire que nous pouvons nous en contenter plus que quelques jours ou quelques semaines serait un déni de réalité. C'est la roue de secours qui nous permet de faire quelques kilomètres avant de pouvoir arriver à bon port, changer les roues et repartir de plus belle.
Cette loi spéciale, rappelons-le, ne comporte que trois articles. Le premier permet de lever l'impôt. Le deuxième porte la reconduction des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales. Le troisième, enfin, permet à l'État d'émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics. Tous les groupes ici s'accordent donc pour le dire. Cette loi est une nécessité technique. Il n'y a eu donc aucune opposition lors du vote. Mais là encore, Amélie de Montchalin prévient et reprend l'avertissement formulé quelques heures plus tôt par le Premier ministre.
La loi spéciale n'est pas un budget, ce n'est pas un choix politique, c'est plutôt même un non-choix. Et c'est un non-choix que notre pays ne peut pas se permettre.
La ministre des Comptes publics appelle donc les députés à revenir rapidement sur la voie du compromis. Nous l'avons fait pour le budget de la sécurité sociale, nous pouvons le refaire, affirme Amélie de Montchalin.
Il ne peut y avoir ni de trêve, ni de grève du compromis. La trêve de Noël ne peut être une trêve de la responsabilité. Car chaque jour de loi spéciale sera, en 2026, un jour de trop.
Une volonté de compromis partagée par le Bloc central et par le Parti socialiste. Le PS qui voit dans cette loi spéciale un expédient que rien ne doit permettre de durer. Alors si l'Assemblée nationale ferme ses portes ce soir pour la période des fêtes, les négociations, elles, vont bel et bien se poursuivre. Nous devons nous mettre autour de la table pour travailler dans les meilleurs délais, demande le député Philippe Brun au gouvernement, le député socialiste. Il reste une dernière étape à franchir pour cette loi spéciale, celle du Sénat. Son examen vient tout juste de débuter à la Chambre haute.
Jeanne Serrin en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Martin Troadec. Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui s'exprimera en fin de journée tout à l'heure entre 19h et 19h30 pour rendre compte de l'action du gouvernement pour l'adoption de ce budget, a annoncé Matignon. Emmanuel Macron, lui, recevait cet après-midi les différentes organisations agricoles à l'Élysée au sujet de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Dans une déclaration commune, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination urbaine et la Confédération paysanne ont fait savoir que le message porté au chef de l'État n'avait pas changé. Cet accord avec le Mercosur, c'est non. La semaine dernière, sa signature a été reportée comme le réclamait le chef de l'État. Une coupure généralisée d'électricité s'est déclenchée cet après-midi à Mayotte en raison d'un incident grave. Selon la préfecture, l'origine n'est pas encore établie. L'électricité a peu à peu commencé à revenir dans l'après-midi. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la cyberattaque ayant touché la Poste hier à quelques heures des premiers échanges de cadeaux. Le suivi des colis ainsi que l'accès aux comptes de la banque postale ont été très perturbés. L'accès à ces services en ligne s'est amélioré, mais la situation reste instable, a indiqué l'opérateur à la mi-journée, indiquant que les équipes font leur maximum, même si les colis arrivent encore en retard. Illustration devant l'un des plus grands bureaux de poste lyonnais avec Mathieu Bonnour.
Les clients posent de nombreuses questions au guichet ce matin. Tous demandent où sont leurs colis. En effet, Camille sort son téléphone et il n'arrive pas à accéder au site internet.
Je lance, tu ma commande, j'ai le suivi de colis, c'est le numéro que j'ai redonné au guichet. La Poste, le site est indisponible. C'est un peu frustrant, mais c'est un grand groupe en plus, donc j'espère qu'ils mettent les moyens derrière pour que ce soit résolu assez rapidement quand même.
Pour les envois aussi, c'est compliqué. Philippe vient de vendre une arme factice sur une plateforme pour les particuliers et il vient d'apporter le paquet.
Je viens de la vendre et du coup, je pense que le monsieur veut un cadeau Noël ou quelque chose pour lui. Donc voilà, ça sera son cadeau quoi. Mais je pense qu'il va avoir un peu de retard parce que les gens m'ont dit qu'il y aurait du retard apparemment par rapport à l'attaque, à la cyberattaque. Ils sont un peu perdus, j'ai l'impression. En fait, j'ai pris un truc 2 jours, mais la personne m'a dit au moins 4 jours.
Mais parfois, la frustration est plus difficile à gérer. Louis vient d'amener de nombreux colis. Il travaille dans un magasin de vêtements juste à côté. Et depuis hier, c'est chaotique.
Nous, on passe par Colissimo, tout Colissimo était en carafe. Ce qui nous a un peu mis dans la panade. Hein. Malheureusement, c'est que c'est pas de leur faute. Hein. Ça arrive, mais c'est pas très rigolo parce qu'après, j'ai des gens au téléphone qui sont pas très contents parce qu'ils n'auront pas leur colis pour Noël.
Ce vendeur espère juste que ses envois n'arriveront pas sous les sapins avec trop de retard.
Et on parle cette fois d'un cambriolage qui tombe là aussi au plus mauvais moment pour le Secours Populaire du Calvados. Le siège départemental de l'association située à Caen a été vandalisé. Plusieurs ordinateurs volés la nuit dernière et ce en pleine dernière ligne droite pour la structure avec les ultimes distributions de l'année destinées à 12 000 personnes. Même si les cadeaux pour les enfants et les denrées alimentaires ont été épargnés, c'est un moment très très difficile pour toute l'équipe. Nicolas Champion, directeur du Secours Populaire du Calvados.
La chose la plus compliquée à vivre, c'est pour les bénévoles. On est tous épuisés. Sur le mois de décembre, on a des initiatives tous les week-ends, tous les soirs, pour collecter des jouets, pour collecter des fonds, pour offrir des jouets aux enfants et des repas de réveillon. Là, en veille de Noël, on pense qu'on a entre 5 et 10 000 euros de préjudice financier pour l'association. Oui. Les messages de soutien qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, ça nous fait énormément plaisir en cette veille de Noël. Et oui, si on peut nous donner un coup de pouce avec un petit don financier en ligne, ça nous permettra de rembourser notre préjudice et de remplacer au plus vite le matériel qui a disparu, parce que c'est des choses qui nous servent à organiser la solidarité, à avoir les listings de personnes qu'on aide, à communiquer avec nos équipes bénévoles, avec nos structures dans le Calvados. C'est très important pour nous de redémarrer au plus vite.
Un propos recueilli par Didier Charpin d'ici Normandie, à Caen. Après bientôt un mois d'audition, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public bat de l'aile, visée par de nombreuses critiques, des personnes entendues jusqu'aux députés de gauche qui dénoncent une forme de macartisme dans le quotidien Le Monde. Conséquence, le président de cette commission et député Horizon, Jérémy Patrier-Lettus, annonce que l'envoi des convocations pour les prochaines auditions est suspendu pour, dit-il, retrouver de l'apaisement. Héloïse Weiss, plus personne ne sera convoqué avant une réunion prévue le 6 janvier prochain.
Jérémy Patrier-Lettus avait pourtant insisté en préambule des auditions. Cette commission d'enquête ne doit pas être dévoyée ni alimenter la défiance grandissante à l'égard des politiques et des médias. Mais un mois donc après le début des travaux, le président le constate par voie de communiqué de presse. Ses principes et ses exigences n'ont pas toujours été respectés. À l'époque, pourtant, écrit-il, il avait rappelé une exigence absolue, fonder les questions sur des faits et non sur des suspicions, pour ne pas porter d'accusations individuelles non étayées par des faits. Il avait aussi insisté, pas d'instrumentalisation ni de déformation des propos des personnes auditionnées sur les réseaux sociaux. Là encore, pour ne pas fausser la compréhension de nos concitoyens. Toutefois, certaines méthodes adoptées en commission interrogent au regard de ces principes. C'est le cas par exemple de celle du rapporteur de la commission, le député UDR Charles Alloncle, en cause notamment la nature des questions posées et le ton adressé aux journalistes auditionnés, Patrick Cohen et Thomas Legrand, séquence qu'il avait ensuite relayée sur ses propres réseaux sociaux. Charles Alloncle avait aussi fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour revenir au respect des règles. La réunion prévue début janvier par le président de la commission vise donc à retrouver de l'apaisement, dit Jérémy Patrier-Lettus au quotidien Le Monde, et surtout à se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement avec les membres du bureau et le rapporteur.
Et les auditions reprendront en janvier et doivent se poursuivre en février et en mars. Aux États-Unis, de nouveaux documents sur l'affaire Jeffrey Epstein ont été dévoilés cette nuit, environ 30 000 pages. Le gouvernement devait publier tous les dossiers liés à cette affaire de prédation sexuelle avant vendredi dernier en raison d'une loi votée en novembre, mais il a pris du retard car les éléments doivent être analysés pour ne pas exposer les victimes et c'est aussi pour cette raison que beaucoup des premiers documents révélés ont été caviardé selon les autorités, ce qui n'empêche pas l'opposition démocrate de dénoncer une dissimulation. Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir.
Et parmi les révélations d'aujourd'hui, le nom de Donald Trump qui apparaît à plusieurs reprises.
Oui, en effet, dans ces nouveaux documents, les mentions de Donald Trump se comptent par centaines. Alors rien ne suggère des actes criminels, son nom est souvent cité dans des échanges anodins, mais certaines révélations soulèvent des questions. En 2020, un procureur de New York s'étonne dans un email que Trump ait voyagé au moins 8 fois à bord de l'avion de Jeffrey Epstein dans les années 90, parfois avec des jeunes femmes. D'autres documents suggèrent que Trump et Epstein se sont vus lors de nombreuses soirées au début des années 2000. Dans une lettre signée Epstein et destinée à Larry Nassar, l'ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné pour des centaines d'agressions sexuelles, Donald Trump est décrit comme partageant aussi notre amour des jeunes filles nubiles. D'après le ministère de la Justice, ces nouveaux dossiers contiennent des affirmations fausses et sensationnalistes soumises au FBI avant l'élection de 2020. Dans ces derniers dossiers, les révélations les plus embarrassantes pourraient concerner l'ex-prince Andrew. En 2001, une personne qui signe avec la lettre A échange des emails avec Ghislaine Maxwell, ex-petite amie et complice d'Epstein. Il lui demande si elle a trouvé des amis inappropriés. « Désolé, je n'ai trouvé que des amis appropriés », répond Maxwell. Ce A affirme se trouver à Balmoral, la résidence d'été de la famille royale, et dit avoir quitté la RN. Andrew a justement quitté la Royal Navy en 2001.
Franck Madvon, envoyé spécial permanent de France Culture à Washington. Le Groenland appartient à son peuple et le Danemark en est le garant. Emmanuel Macron joint sa voix à celle de l'Union européenne en soutien au territoire danois, convoité par Donald Trump qui a plusieurs fois indiqué vouloir l'annexer. Hier, Copenhague a condamné la nomination d'un envoyé spécial américain pour le Groenland, dont le sort se décide sur l'île, a martelé encore son premier ministre aujourd'hui. Washington, de son côté, assume et répète avoir besoin de ce territoire face à la Chine et à la Russie. L'armée ukrainienne annonce ce soir avoir abandonné la ville de Siversk dans l'Est, une localité revendiquée par Moscou depuis 2 semaines et considérée comme un des derniers verrous entre les troupes russes et les grandes villes de Kramatorsk et Sloviansk, toujours sous contrôle de Kiev. Et le réseau énergétique ukrainien, lui, soumis à rude épreuve cet hiver encore. Des frappes russes ont frappé la nuit dernière des infrastructures électriques et gazières dans 13 régions, dont la capitale, tuant 3 personnes et entraînant d'importantes coupures de courant. Et c'est dans ce contexte que l'AFP publie cet avertissement du directeur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, formulé lors d'un entretien donné à l'agence la semaine dernière au sujet du dôme de protection de la centrale menacée par d'éventuels nouveaux bombardements russes après une frappe en février dernier. Christian Chéneau.
Le responsable du site estime que si un missile ou un drone touchait une nouvelle fois la centrale de Tchernobyl, les conséquences pourraient être désastreuses, peut-être même déclencher un mini-séisme dans la zone. Selon ses mots, il faut rappeler que depuis la catastrophe de 1986, la centrale de Tchernobyl est recouverte d'une coque interne en acier et en béton qu'on appelle le sarcophage. À ce dispositif, construit dans l'urgence il y a 40 ans, s'ajoute une coque externe appelée le nouveau confinement de sécurité inauguré en 2019. Cette structure a été endommagée le 14 février dernier par un drone russe provoquant un incendie majeur dans l'édifice, mais pas d'augmentation de la radioactivité. Des réparations avaient été menées, notamment pour recouvrir d'un écran protecteur le trou causé par l'impact du drone, mais il reste environ 300 petites ouvertures pratiquées par les pompiers pour éteindre l'incendie qui doivent encore être comblées, ce qui fait dire à l'AIEA qui a envoyé ses experts sur place que la centrale a besoin d'une restauration rapide et complète pour prévenir une dégradation supplémentaire et garantir la sécurité nucléaire à long terme.
Christian Chéneau. En Israël, après la fermeture hier par le gouvernement de la station de radio militaire Galei Tzahal, très populaire dans le pays, le Parlement a donné son feu vert aujourd'hui à un amendement qui prolonge l'interdiction des médias étrangers accusés de porter atteinte à la sécurité de l'État. Une mesure adoptée l'an dernier, quelques mois après l'attaque du 7 octobre. Elle visait alors surtout Al Jazeera, chaîne qatari qualifiée par les autorités israéliennes d'organe de propagande du Hamas. Ce qui n'étonne pas Arnaud Mercier, professeur en communication à l'université Paris Panthéon-Assas, auteur des mots de la désinformation et de la manipulation.
Cela correspond à une stratégie depuis longtemps adoptée par Israël, qui consiste à essayer de contrôler au maximum l'image qui est donnée du conflit en faisant en sorte d'interdire l'accès au théâtre d'opération à des journalistes qui ne sont pas invités, et donc pour l'essentiel à quelques journalistes triés sur le volet, notamment israéliens. Mais malheureusement pour Israël, et par rapport à son idéal de contrôle le plus absolu possible des représentations de la guerre, il y avait déjà sur place des journalistes, notamment des journalistes arabes, et ils ont donc dit qu'il fallait en plus avoir des outils de répression contre les journalistes déjà présents à Gaza qu'on ne pouvait expulser, soit en faisant en sorte de les intimider, voire de les tuer. Et il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs dizaines de journalistes arabes qui ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Et puis, quand ça ne suffit pas encore, faire en sorte d'avoir des moyens de répression pour empêcher les images d'Al Jazeera et autres d'être diffusées sur le territoire israélien et donc de venir contrarier la propagande militaire officielle du gouvernement israélien. Et donc cette loi, elle est logique, si je peux dire, dans l'état d'esprit de la propagande de guerre de l'État israélien depuis très longtemps.
Arnaud Mercier, auteur des mots de la désinformation et de la manipulation, publié aux éditions Presse Universitaire du Midi. Et depuis l'an dernier, Israël a perdu 11 places dans le classement mondial de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Le pays désormais 112e sur 180. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exhorte les rebelles houthis du Yémen à libérer immédiatement tous les collaborateurs des Nations Unies détenus dans le pays. Appel lancé après l'annonce d'un accord d'échange de 3000 prisonniers entre les insurgés chiites et le gouvernement yéménite dans le cadre d'une trêve conclue en 2022 après plus de 10 ans de conflit. Ces employés de l'ONU, une soixantaine de nationaux et d'internationaux, sont eux détenus depuis 2021, accusés d'espionnage notamment selon les Nations Unies. Elle s'était vue offrir un séjour tout frais payé en Thaïlande. Il s'est terminé par une arrestation à Istanbul et une condamnation à 10 ans de prison. Verdict prononcé par la justice turque aujourd'hui à l'encontre de deux Françaises arrêtées à l'aéroport où elle se trouvait en transit avec plus de 25 kilos de cannabis dans leur bagage, confié par un homme qui leur avait demandé de les ramener en Belgique. Les deux jeunes femmes, détenues depuis 10 mois, assurent qu'elles ignoraient tout du contenu de ces valises. Elles comparaissaient aujourd'hui donc pour connaître leur peine. Marie-Pierre Véraud était à l'audience.
Deux timides silhouettes s'avancent tour à tour à la barre. Elles disent au juge leurs regrets, leur naïveté aussi. Elles ignoraient ce que contenaient les valises. Dans la salle, la mère d'Ide Bissen se tord les mains. À l'énoncé du verdict, elle s'écrie « Mais pourquoi elles sont innocentes ?»
Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, que ma fille, elle est innocente. Elles sont toutes les deux innocentes. Si elles avaient su ce qu'il y avait dans cette valise, elles n'auraient pas pris le risque. Jamais. Je connais ma fille. Jamais elle fera ça. C'est une fille intelligente. Elle a son bac, son BTS, sa licence. Elle est en master en première année. Elle a du potentiel. Mais elle a fait confiance à cette personne parce que c'est un ami d'enfance. Elle nous manque beaucoup. Voilà. Elle nous manque énormément. Je suis encore sous le choc. Le fait qu'ils disent la peine, là, ça, 10 ans, c'est pas rien.
C'est pourtant une peine minimale. Le trafic de cannabis est passible de 20 ans de prison. La Turquie est extrêmement sévère dans les affaires de drogue. Mais les deux jeunes filles n'ont été condamnées que pour transport de drogue, explique l'un de leurs avocats.
Les juges ont estimé qu'elles n'avaient pas l'intention de se livrer à un trafic, mais ils se devaient de les condamner. 27 kilos de cannabis, c'est important, et 10 ans, c'est la peine minimum qu'elles encouraient. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ils vont toutefois faire appel pour une réduction de peine et surtout un transfert en France. Hors de question qu'elle reste ici, ajoute une cousine venue en soutien. Même si les conditions de détention sont très correctes, mais il faudra être patient. Cela prendra du temps, plusieurs mois au minimum. Tout cela, soupire la mère, pour deux valises qu'elles ont prises pour rendre service en toute confiance.
Le récit de Marie-Pierre Véraud depuis Istanbul. Le temps pour demain avec un ciel couvert sur tout le territoire le matin, des pluies fréquentes sur la Corse avec de la neige à partir de 1500 mètres et des précipitations plus faibles ailleurs dans le sud, de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA, encore un peu de neige sur les Pyrénées et les Alpes. Les températures au petit matin seront comprises entre 0 et 2 degrés sur le quart nord-est, de 1 à 6 degrés ailleurs en journée. Les températures les plus basses dans l'est autour de 0 degré à Belfort, les maximale dans le sud-est entre 11 et 13 degrés. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, Paul Guigue à la technique.